France Inter.
Ce soir, seconde partie de notre entretien avec quelqu'un que beaucoup, vous disais-je déjà hier, regardent comme une légende vivante. Ceci devrait vous donner un indice. Au loin, à travers les champs, le son de la cloche d'airain appelle les fidèles à s'agenouiller pour écouter de douces incantations magiques. La reprise du thème de la chanson Breathe dans Time, un des titres les plus connus, d'un des albums les plus connus de l'histoire du rock. J'ai nommé, bien sûr, créé par Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sorti en 1973 et qui, vous disais-je déjà hier, continue encore aujourd'hui à se vendre dans son format d'origine, celui du disque vinyle, évidemment. Comme je vous le disais également hier, j'ai eu la chance de m'entretenir, c'est une petite demi-heure, à Londres avec David Gilmour. David Gilmour qui, avec ses camarades Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason, fut l'artisan de cet enregistrement. Un enregistrement qui, comme un vaisseau intersidéral, a traversé le temps, hein, plus de 5 décennies déjà. David Gilmour, oui, il fut le guitariste, et quel guitariste, inventeur d'un style reconnaissable entre tous, tout en glissement et en vibration. Un style comme liquide. Et puis Gilmour a aussi été la voix des chansons les plus connues de Pink Floyd. Comme je vous le disais, j'ai pu donc le rencontrer pour France Inter il y a de ça environ un mois et m'entretenir avec lui, mettons une petite demi-heure. On a diffusé la première partie de cet entretien dans l'émission d'hier. Elle est bien sûr toujours disponible en podcast sur l'application de Radio France. Et comme je vous le disais, eh bien demain sortira un film David Gilmour Live at the Circus Maximus Rome, qui, comme son nom l'indique, réunit des morceaux enregistrés lors d'une série de concerts donnés à la fin de l'été 2024 par Gilmour et son groupe dans les vestiges d'un théâtre antique à Rome. Il sera diffusé en version IMAX, hein, dans certains cinémas. C'est une expérience d'immersion sensorielle que j'ai vécue, très réussie. Et la présence de Gilmour, qui a inclus dans son excellent groupe sa fille, la harpiste et chanteuse Romany Gilmour, j'en parlais hier, a quelque chose de très chaleureux. Le lien d'ailleurs qui unit Gilmour à ses musiciens semble aussi de certaine façon familial. C'est ce que montre bien le film réalisé par le documentariste Gavin Elder, et c'est plutôt touchant. Parallèlement, va sortir également la BO du film, 23 titres en tout, sorte de concert parfait de David Gilmour et de son groupe, qui sera donc accessible sur le site de streaming, et puis également en coffret de 4 disques vinyles pour les passionnés, sous le titre de The Luck and Strange Concerts. Je vous ai parlé du lieu où je me suis entretenu avec David Gilmour. C'est un petit atelier situé sur un terrain bordant la Tamise, au sud-ouest de Londres, où est amarrée une péniche de légende, l'Astoria, à l'intérieur de laquelle Gilmour et son équipe ont monté, il y a bien longtemps, plusieurs dizaines d'années, un studio d'enregistrement. Alors la péniche est actuellement en réfection, j'ai quand même pu visiter les lieux, et ce qui est frappant, c'est l'exiguïté de la superficie qui est dévolue à l'enregistrement. Vous mettez dans la pièce aménagée une batterie, ça occupe déjà plus de la moitié de l'espace. Alors surtout d'ailleurs, si vous rapportez ça à la musique souvent majestueuse qu'a pu y enregistrer Pink Floyd à ce moment-là, à la fin des années 80, privée de Roger Waters, eh bien c'est étonnant. Alors l'histoire du lieu est curieuse. Il y a une quarantaine d'années, David Gilmour est passé devant en voiture et séduit par le charme des lieux, un terrain en pente douce, en partie à l'abri des regard au bord de l'eau, eh bien il a décidé d'acquérir l'ensemble. Et dans le lot, il y avait donc une grande péniche qui s'appelle Astoria, l'Astoria. Et l'ensemble, alors j'ai appris ça, avait appartenu à un certain Fred Carnot, qui fut l'impresario de Charlie Chaplin et de Laurel and Hardy aussi. Et il paraît qu'il organisait là, jadis, des fêtes somptueuses. Un orchestre de près de 100 musiciens, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit, pouvait jouer carrément sur le pont de la péniche. Il y avait aussi là un casino. En tout cas, c'est là que Gilmour et son équipe ont enregistré et mixé divers albums de Pink Floyd, donc consécutifs au départ de Roger Waters, sous la supervision du légendaire producteur artistique canadien Bob Ezrin, puis également par la suite des albums signés en solo par Gilmour. Alors c'est marrant, on m'a raconté que des obsédés de Pink Floyd étaient venus là en barque pour essayer de capter naguère quelque chose à ce qui se tramait là, et qu'il y en a même à la fin des années 80 qui avaient essayé de pirater des sons au moyen d'un mystérieux procédé sous-marin. Voilà, autre époque. Aujourd'hui, Gilmour et son équipe utilisent les bungalows, hein, qui ont été bâtis sur le terrain attenant, comme bureau et parfois aussi comme pied-à-terre. Dans la première partie de l'entretien, hier, David Gilmour a évoqué la présence de sa fille Romany dans son groupe, sa fille qui est harpiste et chanteuse, des sœurs Webb aussi, excellente choriste et multi-instrumentiste, qui avait accompagné il y a plus de 10 ans Leonard Cohen lors de sa dernière tournée. On a d'ailleurs évoqué Cohen, dont Gilmour a repris des chansons. On a aussi parlé de Brian Wilson, ainsi que de son ami d'enfance, Syd Barrett, le fondateur de Pink Floyd. Comme je vous le disais, c'est toujours disponible en podcast sur l'application de Radio France. Il me restait à poser des questions plus personnelles à David Gilmour, très détendu hein, dans son petit atelier bureau, éclairé par un généreux soleil automnal.
I think I'm fine.
Okay, fab. Well, I'll
let you know. I'm going to move my position just...
David, vous appartenez à une génération dont la musique nous a fait rêver. Hein, quand on écoutait Pink Floyd, on songeait à des voyages cosmiques. Quand vous avez créé vos sons, vous avez recouru à la technologie. C'était pour nous faire échapper au monde matériel. Et bien sûr, aussi, hein, pour citer votre album le plus célèbre, vous avez exploré la face cachée, hein, la face sombre et obscure des choses, avec une certaine théâtralité. Je pense aussi à The Wall. Vous allez avoir 80 ans l'année prochaine, et je voudrais citer un passage d'une de vos nouvelles chansons. « Time disobeys me, it never ends ». Le temps me désobéit, il ne s'achève jamais. Et je voulais savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes optimiste, désespéré, indifférent face à tout ce temps écoulé, ce peu de temps qui vous reste? Est-ce que c'est de la lumière ou c'est des ténèbres que vous voyez devant vous?
Oh, such deep questions.
Vos questions sont très profondes. On y passera tous. On doit tous faire face aux réalités du temps qui passe, à tout ce qui est inévitable. Moi, ça me va, autant que possible. C'est quelque chose qui est évoqué dans la plupart des chansons que j'ai écrites, et même certaines que je n'ai pas écrites. Là, c'était poli. C'est une idée magnétique qui attire les gens comme un aimant. J'espère que ce n'est pas trop assommant pour les gens d'être toujours bombardés par ce même sujet. Mais moi, ça me va. C'est comme ça. Je vieillis, on vieillit tous, et on doit tous anticiper la même chose.
Oui, là, il citait Polly, c'est-à-dire Polly Samson, sa femme qui est romancière. Alors, David, je vais citer une de vos chansons, une autre. « The clearest light shines in the dark », la lumière la plus claire brille dans la nuit. Est-ce que vous y croyez, à ça?
C'est plus de l'espoir qu'une certitude. J'espère que qu'une plus grande lumière jaillira des ténèbres actuelles, dans pas trop longtemps. Pour ma part, j'ai plus trop de temps. Voilà une petite référence au roi Canute.
Alors là, je dois avouer que je n'ai pas du tout capté cette référence. Tout ce que je sais sur le roi Canute, qu'on appelle Knut le Grand hein, en France, c'est que ce roi viking ayant soumis les Angles hein, au XIe siècle, c'était, selon une légende apparemment apocryphe, assis sur son trône face à l'océan. Il avait ordonné aux vagues de s'arrêter, ça n'avait pas marché. Et Knut, on aurait conclu que le pouvoir des rois n'était que vanité. Donc si quelqu'un a compris cette allusion, ben, je l'invite à m'écrire sur Instagram. Et puis s'il est à Paris ou dans la région, je lui offre un coup, c'est promis. When that fat old sun in the sky is falling, summer evening birds are calling. Summer sound of music in my ears. Distant bells, new mown grass smells so sweet. By the river, sound in a tongue so strange. See? Fat Old Son, une ancienne ballade psychédélique de Pink Floyd, signée par David Gilmour, bien sûr. C'était dans l'album Atom Heart Mother, le fameux album à la vache, hein, comme on disait, qui était paru en 1970. La version que vous venez d'entendre est bien ultérieure, elle remonte à l'année 2016. David Gilmour et son groupe, donc c'était pas Pink Floyd, l'ont joué dans le légendaire amphithéâtre de Pompéi, hein, dans le sud de l'Italie. Pompéi où Gilmour retournait 45 ans plus tard, après l'historique passage de Pink Floyd en 1971. Alors la différence essentielle, c'est qu'en 71, Pink Floyd avait joué pour les besoins d'un film au milieu d'un théâtre antique vide de spectateurs, et c'est ça qui avait donné cette magie particulière à ce concert filmé sans public en 2016. Gilmour y était revenu avec son groupe pour y jouer un vrai concert avec du monde. Alors j'aurais voulu diffuser la version de Fat Old Son telle qu'il l'a jouée dans son concert de Rome en 2024, hein, celle du film, mais hélas, on n'y a pas encore accès à l'instant, il y a un embargo jusqu'à demain, donc si vous êtes curieux, bah, vous la découvrirez par vous-même à partir du vendredi 17 octobre à minuit, c'est dans pas très longtemps, d'ici un peu plus de deux heures, si vous êtes en train d'écouter en direct... Very good. Gottlieb sur France Inter. Alors voici comment j'ai poursuivi mon échange avec David Gilmour. Lors de la brève discussion qui a suivi la projection du film à Londres, son interlocuteur, Chris Salmon, a demandé à David Gilmour quelle était son ambition si la possibilité lui était encore offerte d'enregistrer un nouvel album. Et Gilmour avait répondu drôlement « Arrêtez d'être déprimé ». C'était ça son ambition, ce qui est une traduction possible que je vous propose de la formule qu'il avait employée « Stop being miserable ». David, est-ce que vous vous êtes senti souvent déprimé dans votre vie? Et si vous pouvez l'analyser, pour quelle raison?
C'est une vieille habitude chez moi. Personne ne peut créer à partir du bonheur. C'est la chose la plus difficile à réussir dans tous les arts. Le bonheur véritable. Parce qui, naturellement, donne envie aux gens de regarder, d'écouter, de voir. C'est le partage. Il va falloir couper parmi mes bribes.
It's a sharing.
Le partage des pensées, des idées sur les malheurs de la vie. Non pas que la vie soit misérable, mais elle convoque bien des malheurs. Et moi, je suis très très satisfait de la mienne.
Vous me semblez être plutôt serein.
Merci bien, je l'espère. On essaie d'être serein. La sérénité, elle est à portée de main au bout d'un moment.
J'imagine que c'est plus facile avec l'âge.
Je pense.
Je
ne suis pas vraiment serein. Il y a des moments.
These moments go up and down.
Il y a des hauts et des bas.
They come and they go.
Ça vient et ça repart.
Et sur scène, vous êtes serein?
J'ignore si j'y suis plus ou moins serein. J'imagine que je suis un peu plus serein sur scène. C'est tellement un plaisir de jouer ces concerts devant ce public. L'équipe au sens large, l'ingénieur du son en salle, Colin Northfield, le fantastique éclairagiste Mark Brickman, qui est avec moi depuis 40 ans. Tous ces gens m'aident et me soutiennent et me donnent tout. Et ils ont un avis sur tout, qui est toujours précieux. Tout cela, ça aide à atteindre la sérénité.
Alors, j'ouvre ici une parenthèse. Dans l'émission d'hier, quand j'ai interrogé David Gilmour au sujet de Brian Wilson, qui fut le compositeur visionnaire des Beach Boys, son œil s'est illuminé et il a souligné un emprunt qu'il avait fait au chef-d'œuvre des Beach Boys, qui est Good Vibrations, hein, c'est-à-dire le staccato de violoncelle, hein, qu'on entend à un moment. Il dit qu'il a carrément imité ça dans la longue suite Echoes, qui occupe, à beaucoup le savent, toute la seconde face de l'album Metal, qui est paru en 1971. Je tenais à vous faire écouter ce passage particulier de Echoes. C'est vrai que c'est absolument flagrant. We'll be right back.
wanting and inciting me to rise. And through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings a million bright ambassadors of morning.
Un bref passage de la longue suite de Pink Floyd Echoes. Elle figurait en 1971, comme je vous le disais, sur la seconde face de l'album Metal. Oui, bref passage, parce que l'intégrale fait quand même 23 minutes 32. Bon, un passage dont la première moitié que vous venez d'entendre souligne avec évidence ce dont David Gilmour me parlait, à savoir l'emprunt à un élément saillant, hein, le staccato de violoncelle, dans la composition du chef-d'œuvre psychédélique des Beach Boys, la chanson Good Vibrations, sortie à la fin de l'année 1966, une chanson qui devait être la clé de voûte de l'album Smile, hein, que Brian Wilson et son groupe avaient prévu de publier, un album finalement abandonné et carrément avorté. Mais tout le monde a entendu Good Vibrations dans le monde entier, et Gilmour, en 1970, eh bien, s'en est souvenu. Alors, comme je vous le disais, j'ai eu, lors de cette conversation paisible au bord de l'eau avec David Gilmour, une agréable surprise. Oui, j'appréhendais un peu l'échange avec lui, parce qu'il fait souvent aux intervieweurs des réponses lapidaires, manière pour lui de faire comprendre que la question ne l'intéresse pas vraiment. Et comme il semblait davantage en verve face à moi et à d'autres journalistes le lendemain, je me suis dit que peut-être il fallait pousser mon avantage. Et voici comment j'ai procédé. David, c'est assez surprenant cet échange qui a eu lieu après la projection du film avec votre ami, hein, le journaliste Chris Salmon. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est Salmon lui-même qui vous a demandé ou si simplement il vous a transmis une question du public. On vous a demandé à quoi est-ce que vous pensez quand vous jouez vos solos. Vous avez répondu à ne pas merder. Bah, c'était quand même un peu court, non ? Enfin,
so that's me being glib, of
là,
course,
c'est moi qui fais le malin, bien sûr.
It's very hard to describe.
C'est très difficile à décrire.
What is happening,
car ce qui se passe, c'est que vous êtes dans votre tête à une milliseconde de ce qui va sortir, et vous devez le faire sortir.
So, you know, your mind is
vous avez l'esprit
like
à 1000% pris par cette milliseconde avant que la note suivante résonne. Je ne sais pas comment décrire ce moment-là. On est libre de faire tout ce qu'on veut, mais il faut que ce soit cohérent.
David, vous vous décrivez assez drôlement au début du film avec une certaine autodérision comme une putain de légende, un fucking legend. Mais enfin, bon, c'est vrai, le succès de Pink Floyd, c'est quelque chose qui défie le temps, qui traverse les frontières et les générations. Et je me demandais, pour vous, Qu'est-ce qui reste d'essentiel dans l'héritage de Pink Floyd et qu'est-ce qui, selon vous, va rester au fond?
It's a hard one, then, I'm afraid.
C'est particulièrement compliqué de répondre parce que je ne pense pas beaucoup à Pink Floyd à cette époque de ma vie. C'est dans le passé. On a vendu tous les droits de cette musique à Sony. Et je pense qu'ils s'occuperont très bien de maintenir nos souvenirs bien vivants. Mais ça ne fait plus partie de ce dans quoi je veux m'investir.
Pourtant, vous les jouez encore sur scène.
Quelques-unes, oui. Les chansons sont bonnes. Je veux dire que ça ne m'intéresse pas trop. La transmission, le côté héritage culturel, c'est pas mon truc. Ce qui m'intéresse, c'est la vie, ici et maintenant. Quand je prépare un concert comme celui-ci, mon désir est de ne jouer que des morceaux récents. Mon métier me dit que le public veut entendre Pink Floyd. Je n'ai pas envie d'être impoli. Je veux trouver un équilibre entre mes nouvelles chansons, que j'aime jouer, et les vieilles, dont je ne veux pas faire trop, même si j'aime aussi les jouer. C'est un équilibre.
Eh bien, justement, voici un de ces classiques que David Gilmour aime encore jouer en public, Comfortably Numb, une chanson qui est devenue avec le temps une des plus aimées du public. C'est à l'origine une création commune de Roger Waters pour les paroles et de David Gilmour pour la musique. Cette chanson, elle figurait dans l'avant-dernier album qu'ils ont réalisé ensemble, The Wall, qui est paru en 79, puisque le dernier, ça a été The Final Cut en 1983. Cette très belle version, interprétée par un Pink Floyd d'où Roger Waters était déjà absent en 1988. C'était dans une salle des environs de New York, en été, donc de cette année-là. L'album s'appelle Delicate Sound of Thunder, le son délicat du tonnerre, et figurez-vous qu'il a résonné dans l'espace, cet album, puisque des cosmonautes de ce qui était encore l'Union soviétique, eh bien, l'ont diffusé lors de l'ultime mission Soyouz.
I hear you feel.
Comfortably Numb, joué par Pink Floyd, c'était dans la version live captée en 1988, déjà sans Roger Waters, une version qu'on peut entendre dans l'album Delicate Sound of Thunder. Alors, mon entretien avec David Gilmour tirait à sa fin, et j'ai tenté de me concentrer sur ce qui me paraissait essentiel, au fond, dans la vie de David Gilmour aujourd'hui, et voici donc comment j'ai conclu.
Very good trip. Mishka Assayas sur France Inter.
David, je souhaite pas être trop pesant ou trop solennel, mais il me semble que ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, c'est la famille. Votre femme, Polly Sampson, votre fille Romany, hein, même d'ailleurs durant les transmissions du confinement, les fameuses Fun Trapped Sessions en 2020, on voyait d'ailleurs votre fille chanter, il y avait Polly qui était à côté de vous, on voyait toute votre tribu. Et vous dites que l'héritage, ça vous intéresse pas, en tout cas l'héritage de Pink Floyd, mais enfin j'imagine que vous voudrez quand même laisser une trace, un souvenir de vous au vôtre. Et dans ce cas-là, ce serait quoi? Qu'est-ce qui, selon vous, demeurera de vous quand vous ne serez plus là?
J'espère que la vie que Polly et moi avons menée, la façon dont nous avons élevé nos enfants, leur donnera quelque chose qu'ils pourront transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Les choix et les convictions que Polly et moi partageons seront prolongés, je l'espère, à travers les générations et aideront peut-être, un tout petit peu, à rendre le monde meilleur. On fait de notre mieux pour traverser notre vie. Comme le disait John Lennon, peu importe ce qui t'aide à tenir jusqu'au bout de la nuit, c'est OK. Mais non, c'est pas peu importe, c'est pas OK. Mais bon, je sais à quoi il faisait allusion.
Thank you so much.
Thank you
so much for that. That was an important moment for me. Thank you so much.
Et oui, c'était la fin de l'entretien et David Gilmour faisait allusion aux démons contre lesquels il s'est battu, son alcoolisme notamment. Je ne suis pas sûr que si nous avions disposé de davantage de temps, cet homme extrêmement pudique aurait développé ce point. Et c'est tant mieux après tout. En ce qui me concerne, comme je lui ai dit, cette rencontre brève et professionnelle, avec les limites bien sûr que ça inclut, aura compté pour moi. Pour se quitter, une très belle version de Wish You Were Here, jouée par David Gilmour avec son groupe à Rome en 2024, dans lequel figurent, outre son fidèle bassiste Guy Pratt, les virtuoses des claviers Greg Phelan-Gaines, un Américain qui a joué avec Stevie Wonder, qui a aussi été le chef d'orchestre, c'est pas rien, du groupe de Michael Jackson, et puis aussi Rob Gentry, un remarquable pianiste londonien qui a joué notamment sous la direction de Quincy Jones. C'est assez touchant de voir le public romain debout en larmes quand il voit et qu'il entend David Gilmour et son groupe reprendre les classiques de Pink Floyd, dont celui-ci.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Or did they get you to trade
Us and Them, un classique tardif de Pink Floyd dans une version interprétée par Pink Floyd. Et si vous voulez entendre la version qu'en a donné l'année dernière David Gilmour avec son groupe au Circus Maximus de Rome, il y a eu aussi quelques autres dates en Europe, eh bien il suffira d'écouter l'album qui sort dans très peu de temps, à partir de minuit, ce sera disponible sur les plateformes. Merci beaucoup à Vincent Godard qui a réalisé et mis en onde l'émission de ce soir, merci également à Guillaume Cohoner qui s'occupe du site internet de l'émission, ainsi qu'à Romain Couturier à la discothèque de Radio France, sans oublier, last but not least, Harold Manning qui était présent, très précieux toujours, à l'interprétation. C'est sa voix que vous avez entendue doubler celle de David Gilmour.